avant, regardez des belles choses dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole vivante de Dieu ce matin? Alors, donc, je vais vous inviter à prendre votre Bible et on va faire une déclaration de la foi qu'on aime faire ici à la vie comblée. Parce que nous croyons que ce livre est inspiré de Dieu, on croit que ça nous révèle la parole vivante de Dieu, la parole qui est pour toujours, pour toute éternité, établie dans les cieux. Vous savez que c'est pas ce livre qui est éternel, je peux le prouver parce que j'ai des pages qui sont toutes déchirées et abîmées, mais qu'est-ce que ce livre contient? C'est une révélation d'une parole qui est pour toujours établie dans les cieux. Et Jésus a dit que le ciel et la terre vont passer, mais ma parole ne passera jamais. Sa parole subsistera pour éternité. Sa parole est encore plus réelle, plus vraie, plus solide, plus sûre, plus ferme que n'importe quoi que vous pouvez voir avec vos yeux ou toucher avec vos mains. Amen? C'est pourquoi même si vous avez des problèmes dans votre vie, que ce soit des problèmes de santé, des problèmes financiers ou quoi que ce soit, des problèmes émotionnels, la parole vivante de Dieu et la parole éternelle de Dieu peut changer ces problèmes temporaires que vous avez dans votre vie. Ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel, la parole de Dieu dit. Alors on va dire, si voici ma Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Il y en a qui vous semblent, ils ne semblent pas que vous croyez qu'est-ce que vous dites. Il y a d'autres qui le disent pas du tout. On va le dire encore. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil, mais je serai pour toujours et à jamais changé et transformé dans en gloire, dans l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Si vous dites ça et vous le croyez, c'est pas, si vous le dites juste de même comme un paroquet, ça marche pas. Mais si vous dites cela de votre cœur et vous confessez de votre bouche en croyant du cœur, ça peut changer votre vie. Vous savez que, en fait, moi, avant de commencer le message, juste une autre petite pensée, parce que ça peut changer votre manière d'écouter le message aujourd'hui. Vous savez qu'en hébreu, la Bible dit que la parole qui a été proclamée ou prêchée ou annoncée au peuple de Dieu ne servait de rien à ceux qui l'ont entendue. Wow, on dit quoi? Mais je viens de dire, on vient de déclarer que la parole de Dieu est puissante, elle est vivante, efficace. Oui, mais la parole de Dieu dit aussi que la parole agit en ceux qui croient. Si vous ne croyez pas, elle n'agit pas. Et on voit les enfants d'Israël qui ont entendu la parole, mais la Bible dit que cette parole ne servait de rien parce qu'elle n'était pas mélangée avec la foi. Donc si il y a des gens ici qui vont écouter le message et qui vont sortir d'ici complètement transformés, il y a d'autres personnes qui vont écouter le message et vont sortir d'ici pareil. Il n'y aura aucune différence, aucun effet dans leur vie. Et c'est à vous de décider. Est-ce que je vais recevoir la parole avec douceur, avec humilité du cœur? Est-ce que je vais croire que c'est vraiment la parole de Dieu, c'est pas la parole d'un homme? Si je mélange ma foi avec cette parole, elle va produire des résultats. Comme j'ai dit aux étudiants à l'école biblique hier, quand j'étais jeune, j'aimais faire des petites bombes avec... j'ai toujours aimé les petites bombes. Hein? Tu sais, les jeunes garçons, les ados, on aime les petites explosions. Et moi, avec le vinaigre et le soda, on est capable de faire des bêtises, on pourrait dire, pour dire la vérité. Mais en tout cas, mais tu sais, je prenais toujours une petite bouteille avec un peu de vinaigre en bas. avec le soudre dans un petit essuie-tout dans le haut du contenant, avec une capuchon bien serrée, et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de contact entre le vinaigre et le soda, aucun effet. Mais dès qu'on brasse cela, dès qu'on mélange les deux ensemble, il y avait une explosion. Et la parole de Dieu est pareille. Aussi longtemps que vous écoutez la parole de Dieu sans y croire, sans mélanger votre foi, la parole de Dieu va entrer dans une oreille et sortir par l'autre sans jamais, jamais, jamais faire le moindre chose dans votre vie. Mais aujourd'hui, ma prière, c'est que nous allons tous recevoir ce message et mélanger la foi avec. Amen. Donc ça, c'est juste un petit extra aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de parler de comment s'approcher de Dieu. Parce que je crois une chose, c'est que Dieu est bon et ça vaut la peine de s'approcher de lui. En fait, c'est notre raison d'être. Il n'y a pas une autre chose, une autre raison pourquoi on vit sur la planète Terre ou pourquoi on existe. On existe, dans le fond, pour connaître Dieu et pour être avec lui éternellement. Et en Jacques, chapitre 4, verset 8, il y a un verset qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Est-ce que vous aimeriez que Dieu, Tout-Puissant, s'approche de vous? Dans sa présence, il y a de la joie. Dans sa présence, il y a toutes les choses dont nous avons besoin. Dans sa présence, on ne manque de rien. On est comblé, notre cœur est rempli, nous sommes dans la joie et dans la paix. Il n'y a rien qui manque et rien de brisé dans notre vie quand on est dans sa présence. Et la bonne nouvelle, c'est que si on prend les pas vers lui, il prend les pas vers nous aussi. En fait, il a déjà pris le premier pas. On n'a pas cherché Dieu en premier, c'est lui qui nous a tant aimé, qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous sauver, n'est-ce pas? Mais si on veut s'approcher de lui, on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il y a une manière de s'approcher de lui, et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui, comment s'approcher de notre Créateur, de notre Père Céleste. Comment est-ce qu'on peut être en communion proche avec lui et jouir de sa présence et de ses bienfaits et avoir une vie qui est vraiment épanouie? Est-ce que ça vous intéresse? Donc, on voit ici un verset clé, en Hébreux chapitre 11, le sixième verset, et j'ai mis dans vos notes la parole vivante, la version parole vivante qui dit, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être agréables à Dieu? Vous savez que il n'y a pas une autre méthode, un autre moyen pour être agréable à Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu par nos bonnes œuvres. On ne peut pas impressionner Dieu parce que nous faisons toujours la bonne chose. Il y a juste une chose qui va faire en sorte que nous pouvons plaire à Dieu, que nous serions agréables à Dieu, et c'est agir par la foi. Tout le monde dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Donc là, on a vraiment les instructions comment on doit s'approcher de Dieu. Et sachez encore aujourd'hui, mes amis, que Dieu vous aime, il veut s'approcher de vous aussi. Dieu veut vous connaître et d'une manière intime. Il vous connaît déjà, il connaît toutes choses, mais il veut que vous le connaissiez d'une manière intime aussi. Vous savez que la relation entre un mari et une femme est symbolique de la relation entre Dieu et son peuple. Et de la même manière qu'un homme et une femme doivent se connaître et avoir une intimité où ils n'ont rien à craindre et rien à cacher, Dieu veut le même genre de relation avec nous. On devrait être capable de s'approcher de Dieu en n'ayant rien à craindre et rien à cacher. Vous savez qu'avant la chute, Adam et Ève marchaient avec Dieu, il y avait une union, une intimité avec leur Créateur. Ils étaient tous les deux nus et ils n'avaient pas honte. Mais dès qu'ils ont péché, première chose qui s'est passée, c'est quoi? Ils se sont cachés. Ils ont eu peur, ils se sont cachés. L'intimité avec Dieu a été perdue. Et puis, ils ont même voulu faire des vêtements pour couvrir leur nudité, parce qu'ils se sont rendus compte que, oh, on est nu. Avant ça, il n'y avait aucune crainte et absolument rien à cacher. Et Dieu veut restaurer ce genre de relation avec nous. Il a déjà pris le premier pas, il a envoyé son Fils, et maintenant, par le sang de Jésus, on peut être en communion avec lui. Mais même après avoir donné sa vie à Jésus-Christ, il faut quand même prendre les pas pour s'approcher de lui et arriver à la place où je n'ai pas peur de Dieu. Je dois être capable de m'approcher de lui avec assurance. Je ne devrais pas m'approcher de Dieu comme ça en ayant peur qu'il va me frapper. Mais je devrais, comme son enfant, comme son épouse, entrer directement dans le trône devant le trône de la grâce et avoir cette communion intime avec mon papa. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est par la foi. Et la foi, comme on voit ici, il y a trois choses qu'on doit faire si on veut vraiment s'approcher de Dieu comme il faut. La première chose, c'est il faut croire d'abord à son existence. Et on dit, oh, mais ça, c'est facile. Oui, mais on va regarder ça un peu plus à fond. Croyez d'abord à son existence. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Mais quand on dit croire qu'il existe, on ne dit pas tout simplement avoir un assentiment intellectuel où on accepte intellectuellement ou dans notre tête qu'il y a un Dieu. Parce que regardons, il y a des versets très intéressants. Romains chapitre 1, verset 20 dit, « Depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent à la pensée et à la conscience des hommes. » N'est-ce pas intéressant, ce langage? Les œuvres de Dieu, quelles œuvres? Les arbres, les montagnes, les rivières, les océans, les étoiles. Quand un homme regarde et voit la création de Dieu, cette création parle à sa pensée et à sa conscience. Autrement dit, les œuvres de Dieu me parlent. Parce qu'on voit ici, il parle à la pensée, à la conscience des hommes, de ses perfections invisibles. Quiconque sait regarder peut y discerner clairement sa divinité et sa puissance. Aussi, depuis les temps anciens, les hommes qui ont sous les yeux la terre et le ciel, et tout ce que Dieu a créé, ont connu son existence. Qu'est-ce qu'ils ont connu? Et ils sont pouvoir éternel. C'est impossible de regarder l'océan et les vagues de l'océan. C'est impossible de regarder les étoiles. Et surtout maintenant avec les télescopes que nous avons, et on sait qu'il y a des milliards de galaxies et notre univers est toujours en expansion. Il est impossible de regarder et considérer ça sans constater que notre Dieu est grand et il est puissant. Amen. Mais regarde qu'est-ce qu'on voit dans ce verset. Et puis, on connut son existence et son pouvoir éternel, et ils n'ont donc aucune excuse de dire qu'ils ne savent pas s'il y a un Dieu. Psaume 14:1 dit au chef des chants, David, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qu'il fasse le bien. C'est l'insensé qui dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Moi, j'ai une opinion personnelle qui, je crois, est basée sur le verset qu'on vient de lire. C'est que je ne crois vraiment pas qu'un vrai athée existe. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Moi, je ne suis pas certain qu'un vrai athée existe. Il y a des hommes qui se sont convaincus eux-mêmes que Dieu n'existe pas, mais s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, tout ce qu'ils ont besoin de faire, c'est regarder. Assister à un accouchement. Moi, je suis papa de 5 enfants, et j'étais là à chaque fois qu'un de mes enfants est venu au monde. Et laisse-moi vous dire que la première chose qui revient dans mon esprit à chaque fois, c'est que Dieu, tu es merveilleux. Comment ça? On pense à la réalité de comment les enfants viennent au monde avec toutes ces caractéristiques déjà prédéterminé chaque cellule de son corps et c'est incroyable. On ne peut pas dire que c'est par hasard. Et je m'en souviens bien d'avoir une fois témoigné à un jeune homme qui était, oh, il avait peut-être 24 ans. On était à l'époque, c'était dans les années 80, on était en Belgique en train de faire du ministère et on était dans un train. Et il y avait un jeune homme qui venait des États-Unis, qui étudiait à Bruxelles. Et je pense qu'il étudiait la philosophie. Donc, en tout cas, parce qu'il était américain, on commençait à avoir une conversation. Et lui, il a su que j'étais un prédicateur. Et il a dit, mais moi, je suis un athée dévoué. Je dis, bon, mais comment est-ce qu'on peut être dévoué à quelque chose qui n'existe pas? Je ne sais pas. Mais il était un athée dévoué. Ah oui, oui, oui. Et moi, j'ai un mentor à l'université, un homme qui a écrit des livres qui prouvent que Dieu n'existe pas, et da-da-da, et il commençait à... Et on parlait une bonne 20-30 minutes, et il disait toutes sortes de choses, et comment il savait qu'il n'y a pas de Dieu. Il était convaincu. Il était impossible que Dieu existe, etc., etc. Donc, ça continuait longtemps, et j'ai écouté. J'avais parlé un couple de fois de Jésus, et oh, ben non, Dieu, Jésus, oh non, non, absolument pas. Donc, il continuait son discours. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a inspiré à lui regarder droit dans les yeux. Et je dis, mais écoute, et je l'ai regardé vraiment dans les yeux. Je dis, oui, je t'entends parler, mais moi, je suis convaincu que si tu es honnête avec toi-même, vraiment honnête avec toi-même, il y a quelque chose dans le fond de ton cœur qui te dit qu'il y a vraiment Dieu et qu'il existe. Et ses yeux ont changé à ce moment-là. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépassé son intelligence et je commençais à parler à son cœur et à son esprit. Sa tête était convaincue, il n'y a pas de Dieu, pas de Dieu. Il y avait tous les raisonnements humains pour prouver que Dieu n'existe pas. Mais quand j'ai parlé à son cœur, ses yeux ont changé. C'était surnaturel. Qu'est-ce qui se passait? Dieu était en train de toucher son cœur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais tu sais, c'est vrai que des fois ça m'arrive, je demande à mon professeur, mais qu'est-ce qui va se passer si nous avons tort? Et la seule chose que le prof pourrait répondre, c'est que, oh, on va pas y penser à ça. Oh, on pense pas à ça. On évite la question. Mais dans son cœur, il savait que Dieu existait. Mais il y a des fois, les gens ne veulent pas croire. C'est une question de volonté. Des fois, l'incrédulité, c'est un acte de notre volonté, justement parce que le moment que j'avoue que Dieu existe, regarde-moi, le moment que quelqu'un avoue l'existence de Dieu, la personne devient redevable à Dieu et il sait qu'il a un compte à rendre en lui. Si Dieu existe, alors je ne suis plus le maître de moi-même. J'ai besoin de vivre selon les principes et selon les préceptes que Dieu a établis. C'est pourquoi les gens n'aimeraient mieux pas croire des fois. Mais si on veut s'approcher de Dieu, première chose, il faut croire que Dieu existe. Puis, un autre verset très intéressant qui dit, Jacques 2, 18, « Mais quelqu'un te dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Donc là, il y a des personnes qui disent, « Oh, mais moi, je crois en Dieu. » Quand on parle de croire que Dieu existe, on ne parle pas juste d'accepter intellectuellement qu'il est là, parce qu'il y a le plus grand nombre de personnes, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, intellectuellement même, ils vont avouer qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur, il y a quelqu'un en arrière de tout ce qu'on voit. Mais juste avouer qu'il est là, c'est pas suffisant, parce que même Satan y croit. Mais quand on parle de croire qu'il existe, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. On parle de croire et d'avoir des actions correspondantes qui sont en ligne avec notre croyance. Avez-vous remarqué, c'est l'insensé qui dit dans son cœur, dans vos notes, c'était marqué l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et puis le prochain verset dit, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Oh, je ne crois pas que Dieu existe, donc j'agis d'une manière qui est abominable. Et c'est pourquoi en Jacques chapitre 2, il dit, quelqu'un dit, tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Quelqu'un qui croit vraiment que Dieu existe, il va agir comme si Dieu existe. Et même je parle aux chrétiens maintenant, à vous les enfants de Dieu. Je pense qu'à tous les jours, on a besoin de se rafraîchir de mémoire que Dieu existe vraiment. Trop facile de dire, ah oui, je crois que Dieu existe. Mais si tu crois vraiment que Dieu existe, c'est-à-dire que tu crois qu'il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est avec vous 24 heures sur 24 heures, c'est-à-dire qu'il est avec vous dans votre auto quand vous conduisez, n'est-ce pas? Il est avec vous quand vous êtes au travail. Il est avec vous, il est même en vous, si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, il est en vous quand vous regardez un film. Mais combien de nous, on agit comme si on croit vraiment que Dieu est là? Voici un test. Est-ce qu'il y a des choses que vous faites, que si Jésus-Christ dans la chair était présent avec vous dans l'auto, ou sur le divan à côté de vous, quand vous regardez le film, ou quand vous parlez d'une certaine manière, si Jésus-Christ dans la chair était avec vous, est-ce que vous ferez la même chose? Donc vous voyez, dans un sens, quand on fait quelque chose qu'on ne ferait pas si Jésus était avec nous, dans un sens, c'est comme si on ne croit vraiment pas que Dieu existe en nous. Vous me suivez? On agit comme s'il n'existe pas. Nos actions, nos œuvres, qu'est-ce qu'on fait ne démontre pas une véritable croyance que Dieu est en nous, il est avec nous, il est omniprésent. La foi doit croire que Dieu existe en tout temps, en toutes circonstances. Et en une autre chose, on parle de la foi aussi c'est une ferme confiance. C'est avoir vraiment une ferme assurance en Dieu. Et c'est-à-dire que si à chaque fois, vous recevez une facture à la maison, et la facture est plus grande que ce que vous vous attendez à voir, et vous regardez votre compte de la banque, vous regardez votre facture, et oh, il y a un problème. OK? Le moment que vous commencez à vous inquiéter, le moment que vous commencez à avoir peur et crainte, et oh, et être vraiment bouleversé par cela, c'est comme si on est en train de dire par nos actions et nos attitudes que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu existe et il a promis de prendre soin de nous. Mais le moment qu'on donne place à l'inquiétude, c'est comme si on dit, mais je sais dans ma tête que Dieu existe, mais je ne crois pas vraiment dans mon cœur qu'il existe en tant que Jéhovah, Jireh, celui qui voit et pourvoit dans ma vie. Ou si vous avez des symptômes de maladie dans votre corps physique, ou quoi que ce soit, il faut croire que Dieu existe et il faut avoir les actions correspondantes. Si on veut s'approcher de lui. Amen? Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est des bonnes pensées. Mais c'est des choses qu'on a besoin de méditer et réfléchir. Est-ce qu'on croit vraiment de notre cœur que Dieu existe et qu'il est, qu'il dit qu'il est dans notre vie? Deuxième chose qu'il faut savoir, soyez convaincus que Dieu veut vous récompenser. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il faut être convaincu qu'il veut récompenser ceux qui le recherchent, OK? Il y a quelques personnes qui croient que Dieu existe, mais ils ne savent pas qu'il est bon. Malheureusement, j'ai déjà fait l'expérience de parler avec des personnes religieuses qui ont dit les choses comme, tu sais, oh, je suis presque fâché. Je suis irrité et fâché. Dieu m'aime trop. Qu'est-ce que c'est ça, Dieu m'aime trop? Dieu m'aime trop. Oui, parce qu'il me fait tellement souffrir. Ah, oh, j'aimerais ça serait mieux qu'il m'aimerait moins. Qu'est-ce que c'est ça? Quel genre de raisonnement? C'est fou, ça. Mais parce qu'ils ont été enseignés que Dieu va faire souffrir ceux qu'il aime le plus. Si Dieu aime vraiment quelqu'un, il va le faire souffrir. Il va lui donner la maladie. Ils vont lui donner toutes sortes de problèmes pour purifier la personne davantage. Et en quelque part, c'est triste, parce qu'il y a des personnes sincères qui pensent vraiment que c'est Dieu qui fait ça. Mais si on veut s'approcher de Dieu, il faut croire que Dieu existe et qu'il est un rémunérateur. Combien de vous, vous êtes parents? Qu'est-ce que vous faites? Oh, mon fils, c'est ta fête aujourd'hui. Et je veux te montrer jusqu'à quel point je t'aime. Laisse-moi te donner une injection de la grippe ce matin. Tu vas souffrir et tu vas voir jusqu'à quel point je t'aime. C'est fou, hein? Mais les choses qu'on dit des fois, on blâme Dieu pour les choses épouvantables. OK? Moi, j'ai trop la crainte de Dieu de blâmer Dieu pour ces genres de choses. Ces choses viennent sur les enfants de Dieu des fois, mais souvent c'est quand on s'éloigne de lui, on s'éloigne de sa protection et on se laisse exposer aux attaques de l'ennemi, mais c'est pas Dieu. Des fois, oui, est-ce que des fois la maladie peut être à cause d'un jugement de Dieu? Oui, des fois. Mais c'est pas Dieu qui met la maladie sur vous, c'est vous qui a pris une décision et de s'éloigner de Dieu et Dieu va vous juger et il enlève sa main de protection. Alléluia. Mais blâmons pas Dieu pour les choses qui vont pas dans notre vie. Sachez que Dieu est bon et qu'il veut nous récompenser. Dieu est si bon. Tout le monde dit Dieu est bon. Alléluia. Tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières, n'est-ce pas? Romains 8, 17 dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et attention, est-ce que je suis en train de dire qu'à chaque fois que quelqu'un tombe malade, c'est un jugement de Dieu? Non, pas du tout. Des fois, c'est pas notre sujet, mais juste pour que les gens ne fassent pas des idées, hein. Des fois, on tombe malade parce qu'on a abusé notre corps et on n'a pas assez dormi ou on vit dans un monde infecté par le péché et on est exposé aux microbes et on travaille dans les garderies avec les enfants et puis ils viennent avec leur maladie. Et des fois, il y a toutes sortes de raisons. Et donc, c'est pas une question de commencer à pointer le doigt et quoi que ce soit. Vous comprenez? Est-ce que ça, c'est clair? Qu'est-ce qu'on doit faire, c'est de croire que Dieu a fait une provision pour nous. On va le voir tantôt. Il veut qu'on soit en bonne santé et il a pourvu la guérison divine. On peut la réclamer, on peut recevoir cela, mais c'est pas à nous de juger ou commencer à soupçonner que, oh, si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché ou quelque chose. Ça, c'est fou. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et quoi? Co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrirons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu est tellement bon. Jésus a dit à ses disciples même que c'est que Dieu le Père, il prend plaisir à donner le royaume à ses enfants. Il veut donner le royaume à ses enfants. Encore en tant que parent, moi je veux que mes enfants soient bénis. Je veux pas qu'ils manquent des choses dont ils ont besoin. Je veux qu'ils soient vraiment comblés de tout ce dont ils ont besoin. Je ne veux pas qu'ils soient gâtés, mais je veux qu'ils soient bénis. Amen. Et Dieu, il est pareil. Il veut qu'on soit bénis. Il veut nous donner toutes choses avec Jésus-Christ. Et quand la Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, pense à ça, et co-héritiers de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair, Dieu qui est devenu homme, aujourd'hui, au ciel, on a un homme qui est assis sur le trône de l'univers. Il s'appelle Jésus. Et Jésus a hérité toutes choses qui sont sur la terre, au-dessus de la terre, toutes choses qui existent dans l'univers, lui appartient sans exception. Malheureusement, il y a certaines choses qui sont toujours pour le moment sous le contrôle de Satan, parce que Satan est devenu le dieu de ce siècle, mais toutes choses en réalité, appartiennent à Jésus-Christ. Il a hérité tout. Le Père lui a tout donné. Mais savez-vous quoi? Si vous êtes en Jésus et Jésus est en vous, combien de vous êtes en Jésus-Christ? Si vous êtes en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en vous, c'est-à-dire que vous avez hérité toutes choses en lui aussi. J'ai besoin encore de ce miroir. Vous pouvez vous regarder. N'avez-vous pas vu à la télévision quand ils arrivent avec le gros chèque, la personne qui a gagné le concours, ils arrivent à la maison et cognent à la porte et puis avec les ballons et le gros chèque gigantesque, ils disent « Félicitations, vous venez de gagner 10 millions, qu'est-ce que les personnes font? » Ah, ils crient, ils sautent, ils tombent dans les pommes, ils font toutes sortes de choses. Là, je viens de vous dire que vous êtes devenus héritiers de toutes choses. Vous êtes co-héritiers de Jésus-Christ. Co-héritiers. Oh, on comprend, des fois on est fatigué, c'est pas grave. C'est pas grave, sauf que des fois, on reste indifférent. Ça, encore, ça rentre dans une oreille, et puis ça sort par l'autre, c'est pas mélangé. Là, je vous invite à mélanger votre foi avec ce que je viens de dire. Vous êtes co-héritiers de Jésus-Christ. Pense à ça. Hallelujah! Wouh! J'aime ces explosions. Amen. Regardons encore plus loin, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, quoi? Toutes choses avec lui. Hallelujah! Et c'est vrai. Des fois, on a besoin de se secouer. Brasser notre propre cage des fois, n'est-ce pas? Psaume 103 dit de David, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne quoi? Toutes tes iniquités, qui guérit quoi? Toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il faut croire que Dieu existe, il faut croire qu'il est le rémunérateur, il va récompenser ceux qui le cherchent. J'invente pas ces choses aujourd'hui. Allô? J'ai pas lu le passage de premier Pasteur Ken, chapitre 3, verset 5, c'est vraiment psaume 103. Hein, vous vous rappelez le gars, le roi David, qui passait du temps avec Dieu, qui louait Dieu, qui avait un cœur selon Dieu, qui était inspiré par Dieu pour écrire cela, il y a des milliers d'années. C'est ça qu'on est en train de lire. Et c'est la parole éternelle de Dieu qui dit, il faut pas oublier ses bienfaits. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de dire cela? Parce qu'on a une tendance à oublier. Et Dieu est tellement bon, ça vaut pas la peine d'oublier. Donc, croyez d'abord à son existence. Soyez convaincus que Dieu veut vous récompenser. Puis finalement, cherchez Dieu de tout votre cœur. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de aucun bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'apôtre Paul a dit, une seule chose m'importe, être reconnu pour un des siens et être uni à lui. J'ai renoncé à chercher l'agrément de Dieu sur la base de l'accomplissement d'une loi. Vous savez que, avant d'être converti, Saul de Tarse, il cherchait à plaire à Dieu. Il voulait s'approcher de Dieu. Comment? À travers ses bonnes œuvres. Il voulait prouver. Il était zélé. En fait, il persécutait l'Église de Jésus-Christ. Il tuait les chrétiens, pensant qu'il honorait Dieu. Il a dit, là, c'est fini, ça. Je ne possède donc plus de justice personnelle due à mes propres efforts. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui ont placé leur confiance en Jésus? La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Soulignez cette phrase, faire plus intime connaissance avec lui. On veut s'approcher de lui, amen. Oh, c'est là toute mon ambition. C'est là toute mon ambition. On va le dire ensemble. C'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux. On va le dire, le connaître de mieux en mieux. Et si on le connaît de mieux en mieux, on va expérimenter la puissance émanant de sa résurrection et communier avec à ses souffrances. En mourant avec lui, oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort. Donc, on voit ici qu'on doit croire que Dieu existe, il faut croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, et il faut le chercher de tout notre cœur. Et vous, soyez honnêtes, Vous savez, quand vous cherchez tout votre cœur et quand vous avez cherché, il y a des gens qui disent, ils ont cherché avec les yeux des hommes ou quelque chose, hein? On perd quelque, les yeux d'hommes, c'est ça. J'ai déjà entendu, et vous avez entendu cette expression? On perd quelque chose dans la maison, et puis ta femme demande, est-ce que tu peux, chérie, peux-tu m'aider à trouver mes lunettes ou quelque chose? On regarde, je ne l'ai pas trouvé, et bon, mais... Des fois, on cherche, et des fois, on creuse et on cherche. Et la question qu'on doit se poser si on veut s'approcher de Dieu, est-ce qu'on est prêt à le chercher de tout notre cœur? Est-ce qu'on est en amour avec lui? Moi, je sais une affaire. Quand j'ai rencontré ma femme, j'ai cherché à la connaître. On s'est rencontrés, on était jeunes, on avait 17 ans, mais on avait quand même une distance. En fait, la première chose, je m'en souviens, on s'est rencontrés dans une conférence pour les journalistes dans les écoles secondaires. C'était un regroupement des personnes de partout dans l'État de Missouri. Elle habitait 3 heures plus au sud que moi, donc on s'est jamais vus. Mais on s'est croisés, on a échangé une conversation une fois pendant cette semaine. Et la dernière journée de cette conférence, on était dans une assemblée et on était pour regarder un petit film ou les diapos, une petite présentation. Après ça, on allait prendre l'auto et s'en aller chez nous. Puis en entrant dans la salle, je vois en haut, je vois cette fille qui est assise au fond de la salle. Je dis, c'est la seule chance que j'ai. Si je quitte sans aller la voir, je peux peut-être la perdre pour toujours. Donc, j'ai pris la peine, j'ai cherché le courage d'aller la voir, de m'asseoir à côté d'elle et commencer à parler avec elle. Donc, on a échangé les coordonnées et elle aimait le Seigneur et moi j'aimais le Seigneur. C'était une chose de Dieu, c'était un rendez-vous divin. OK? Mais vous savez, on avait 3 heures de route entre nous. Mais ça n'a pas pris du temps que... On faisait facilement 3 heures de route, c'est rien quand on est en train d'aller voir la personne qu'on aime. Et on faisait ça régulièrement, 3 heures de route, c'est 6 heures aller-retour, vous savez. Quand on aime quelqu'un, on cherche quelqu'un. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on est prêt à chercher Dieu de tout notre cœur? Et regardons. On va regarder cela. 5 choses qu'on peut faire pour chercher Dieu, pour terminer. On va pas prendre beaucoup de temps. Mais si on veut vraiment chercher Dieu de tout notre cœur, première chose, chercher Dieu en premier. En premier. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu soit vraiment votre priorité numéro 1. Et vous savez si c'est le cas ou non. La parole de Dieu dit en Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu. Et c'est facile de dire, oui, Seigneur, tu es numéro 1. Sur papier ou dans ma tête. Mais dans mon cœur, est-ce que tu es numéro 1? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Quand vous vous réveillez le matin, à qui ou à quoi est-ce que vous pensez en premier? Pendant toute votre journée, à qui et à quoi est-ce que vous pensez régulièrement? Est-ce que quand vous prenez une décision, est-ce que vous pensez d'abord à Dieu? Encore, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand vous recevez de l'argent, c'est quoi la première chose que vous voulez faire? Donc, toutes ces questions doivent être posées. Est-ce qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Deuxièmement, cherchez Dieu comme un trésor. Comme un trésor. On a tous vu des films, n'est-ce pas? Trésor national. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu le film Trésor national avec Nicolas Cage? Et il y a... Nicolas Cage? C'est ça. Hey, I can say it in English. You ever seen that movie? Mais on voit que tout le film est basé sur le fait qu'il y a un trésor à trouver. On regarde les films des pirates, OK? Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour aller trouver le trésor. Et si jamais, même ils sont prêts à se tuer juste pour avoir la carte. Parce que la carte nous révèle l'emplacement ou la place où le trésor est caché. Donc, ils vont tout faire. Ils savent que cette carte vaut cher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a une carte aussi qui nous indique exactement où trouver le trésor, qui vaut plus que l'or, qui vaut plus que l'argent, qui vaut plus que les diamants ou quoi que ce soit. Mais combien de nous, nous chérissons vraiment cette carte? Est-ce qu'on est prêt à vraiment faire des efforts? On pense à 1849 aux États-Unis, il y avait qu'est-ce qu'on appelle le Gold Rush. Vous avez entendu parler de ça? Ils ont découvert l'or en Californie. Et les hommes ont abandonné leur commerce, ils ont quitté leur maison, ils ont tout vendu juste pour aller se rendre en Californie, pour aller dans les montagnes et essayer de trouver quelques pépites d'or. Et il y en a la plupart qui n'ont jamais trouvé quoi que ce soit. Mais voyez l'effort qu'ils ont fait pour trouver cet or. Ils ont tout vendu pour trouver. Et est-ce que nous avons ce même désir pour aller chercher Dieu comme un trésor? Bonne question, n'est-ce pas? Alléluia. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Numéro 3, chercher sa face et non pas seulement sa main. Si on veut chercher Dieu, il y a trop de personnes qui, oui, ils veulent chercher Dieu, mais pas pour la bonne raison. Ils cherchent la main de Dieu et pas la face de Dieu. Autrefois, on avait un chien qui était supposé, vous savez, les chiens sont supposés d'être loyaux et meilleurs amis de l'homme et tout cela. Mais la réalité, c'est que, c'est probablement d'accord avec la plupart des chiens, mais et c'était presque dérangeant. À chaque fois qu'on faisait quoi que ce soit avec ce chien, il regardait pas ton visage, il regardait ta main. Est-ce que tu as de quoi me donner? Est-ce que tu as une petite quelque chose pour moi? Et souvent, nous, avec le Seigneur, c'est comme ça. On va devant le trône de grâce et on regarde sa main. Seigneur, as-tu une bénédiction pour moi? As-tu quelque chose pour me bénir? Mais c'est pas ça que Dieu veut. Imagine, hein, messieurs, votre épouse vient et regarde juste le portefeuille. As-tu quelque chose pour moi, chérie? C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir une communion intime. Le but, c'est de chercher la face de Dieu. D'avoir une connaissance de sa personne. Pas juste avoir une possession. Amen. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Numéro 4, cherchez en Dieu votre refuge. Sentez-vous et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Je vois là-dedans, si on veut vraiment chercher de tout notre cœur le Seigneur, il faut que ça soit lui qui est notre source de réconfort, notre source de paix, notre source de protection. Vous savez, il y a trop de personnes qui se cachent en arrière de leur bien, de leur carrière. Ils cherchent dans leur carrière une sécurité. Ils cherchent dans une position, dans un titre, dans toutes ces choses de ce monde, ils cherchent un refuge, ils cherchent une sécurité, ils cherchent un réconfort. Il y a quelques personnes qui cherchent dans la nourriture un refuge. Vrai ou pas vrai? Ils vont se consoler. Je pense qu'on a tous passé par là. Des fois, on est nerveux ou on passe par un moment difficile, on a tendance, les biscuits, ça tombe bien, là. Je pense que j'ai hérité ça de ma mère aussi parce qu'elle a toujours dit, bon, ça c'est un problème qui vaut 5 biscuits. Donc, elle a classé ses problèmes par des biscuits. Elle avait un système de classage. Ça c'est un problème. Ça c'est 10 biscuits là. Mais des fois, on se réconforte avec des choses. On cherche un refuge dans l'argent, dans la nourriture. Des fois, c'est dans le sexe, dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses qui, dans le fond, sont vides. Mais Dieu veut qu'on cherche en lui notre refuge. Il veut qu'on cherche en lui notre réconfort. Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Amen. Alléluia. Donc, finalement, numéro 5, chercher Dieu en marchant selon sa parole. Si on veut vraiment, il est impossible de chercher Dieu de tout notre cœur si on ne veut pas écouter sa parole. Et le psaume 119 dit, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel, heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de quoi? Tout leur cœur. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Oh, Seigneur, merci que aujourd'hui on peut s'approcher de toi avec foi, en croyant que tu existes, en étant convaincu que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et on peut te chercher de tout notre cœur, Seigneur, comme on cherche un trésor. On va se lever debout, on va prier. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et pour ta parole. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'est-ce qui se passerait dans notre église et dans notre vie personnelle si on mettrait ces paroles en pratique? Si cette semaine, on chercherait Dieu en premier, on chercherait Dieu comme un trésor, on chercherait sa face et non seulement sa main, si on ferait de Dieu notre refuge et si on marcherait selon sa parole, cherchez le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Juste prenons quelques minutes dans sa présence avant de partir aujourd'hui. J'aimerais que vous réfléchissiez un peu à ce qu'on vient de dire. Posez-vous la question. Est-ce que vous croyez que Dieu existe et est-ce que vous agissez en conséquence? Êtes-vous convaincu que Dieu est bon et qu'il vous aime et qu'il veut vous récompenser? Et est-ce que vous êtes prêt à le chercher de tout votre cœur comme un trésor? Merci Seigneur, aide-nous à nous approcher de toi en mettant ces paroles en pratique au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, en tant qu'individu, on veut te chercher. Mais en tant qu'Église aussi, on veut chercher ta face. Oh, Seigneur Jésus, sans toi, notre seule ambition dans la vie, c'est de te connaître dans la puissance de ta résurrection. Notre seule ambition. Merci, Seigneur, on veut te chercher. Cette semaine, je vous lance le défi de chercher Dieu comme jamais auparavant. Première chose, quand vous vous réveillez le matin, prenez votre Bible et cherchez quelques versets que vous pouvez méditer. Priez, parlez avec votre Père Céleste et tout au long de la journée, cherchez à connaître Dieu comme un trésor. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Est-ce qu'on peut chanter un dernier chant? Est-ce qu'on a m'approcher de toi?